France Culture.
Ora et labora, prie et travaille, la devise des moines bénédictins trouve un écho particulier en ce lundi de Pâques, une des fêtes les plus importantes pour le calendrier chrétien, mais aussi jour férié pour de nombreux pays. Un jour désormais marqué par l'annonce ce matin du décès du pape François. Lundi de Pâques certes, mais lundi tout de même, et comme tous les lundis, entendez-vous, l'écho se penche sur les agents qui composent l'économie et la façon dont leurs comportements suivent ou pas une certaine rationalité en fonction des intérêts qui sont les leurs et en fonction aussi de règles qui leur sont imposées, des règles qui sont édictées aujourd'hui de façon très précise puisque ce sont bien les moines et moniales qui sont nos homo economicus du jour.
Le premier office est à 5h25, ce sont les vigiles ou les matines. Ensuite, il y a les laudes, les louanges, pour commencer la journée avec le lever du jour. Puis ensuite, il y aura un petit office célébré par les moines dans un autre lieu qui s'appelle Tierce, qui est tout de suite suivi de la messe. Ensuite, avant le repas, nous avons encore un office qui s'appelle Sexte, la sixième heure. Ensuite, il y aura celui de la neuvième heure, nonne. Dans la soirée, après le travail, il y a les vêpres. Et ensuite, en tout cas, on termine toujours le soir par les complis avant d'aller se coucher vers 9h.
Justement, le brassage ne me permet pas de retourner à l'église pour les offices, donc je vais les dire sur place. Donc j'ai le psautier ici, et quand j'ai le moment disponible pour dire l'office, je le dis, tout seul. Mais disons que comme en brasserie, au bout d'un moment, quand il faut faire les nettoyages, il y a beaucoup d'eau. La bure n'est pas très pratique, donc c'est pour ça que je mets un pantalon et des habits de travail.
Le sweatshirt.
Troquer la robe de bure pour le sweatshirt plus propice au travail, en l'occurrence celui du brassage de la bière, c'est tout l'enjeu de cette émission ainsi résumée et toute la tension aussi, performance économique et principe même de la vie en communauté monastique fondée sur la contemplation et le retrait de la vie sociale sont-ils nécessairement contradictoires? La nécessité, plus encore que les règles théologiques, fait-elle loi? Pourquoi, au nom de quoi les moines travaillent-ils? Cela en fait-il pour autant des entrepreneurs, voire des investisseurs ou des managers? Isabelle Jonvaux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue des religions et enseignante à l'université de Fribourg en Suisse et vous êtes avec nous depuis les studios de la radio-télévision suisse à Lausanne. On entendait là, à travers ce reportage réalisé en juillet 2022 à l'abbaye de Saint-Vendry, située en Seine-Maritime, tout le paradoxe que vous évoquez, notamment dans la thèse que vous avez consacrée à l'économie des monastères. Économie et religion sont a priori bien peu compatibles. L'économie, c'est le quotidien. Or, la religion se situe précisément au-delà de ce quotidien et relève de l'extraordinaire. Ordinaire. Alors pourquoi étudier l'économie lorsqu'on s'intéresse aux religieux est loin d'être accessoire? Là où il y a du religieux, il y a nécessairement de l'économie, Isabelle Jonvaux.
Oui, alors effectivement, a priori, on peut se dire qu'il y a un paradoxe parce qu'on aimerait bien dans la religion déjà vivre de manière éthérée, un peu comme les anges, prier sans cesse. Mais en réalité, il n'y a pas de religion sans économie, tout simplement parce qu'on a besoin de matérialité, on a besoin d'objets, on a besoin de bâtiments. Et les moines, ceux qui s'en sont retirés du monde, se sont en fait rendus compte assez vite qu'ils avaient eux-mêmes des besoins biologiques, tout simplement, ils avaient besoin de manger, donc de travailler et d'avoir des revenus.
Marie-Catherine Paquier, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à vous. Vous êtes enseignante chercheuse en sciences de gestion, responsable de recherche à l'European Business School Paris et chercheur associé au Conservatoire National des Arts et Métiers, le CNAM. Alors vous avez de votre côté beaucoup travaillé sur les activités commerciales et marketing des monastères, ainsi que sur leur rapport à l'innovation. On va le voir qui est très important, et notamment en termes d'organisation de ce travail. Lorsqu'on parle d'économie des monastères, justement, c'est essentiellement du travail des moines que l'on parle. C'est ça qui constitue l'essentiel de cette économie monastique.
Alors, quand on parle aujourd'hui, au XXIe siècle, de l'économie monastique, nous parlons en fait des activités dites lucratives des monastères qui se concentrent dans les activités de production, d'artisanat, de produits, de services aussi, et de commerce. C'est-à-dire qu'il y a de très très nombreux monastères qui ont un magasin à leur porterie. Et ce magasin vend non seulement les produits fabriqués par le monastère, mais aussi, et peut-être surtout, un très large assortiment de produits monastiques, ou locaux, ou autres, et aussi beaucoup d'éditions.
Donc ce ne sont pas nécessairement des produits 100% travaillés, produits de fait par les moines présents sur le même site que la boutique.
Non, parce que sinon l'assortiment serait vraiment très étroit, et il y a beaucoup de passages dans les monastères, les randonneurs, les retraitants, les visiteurs, etc. Donc il y a un vrai besoin, une vraie attente de trouver des produits, bien sûr cohérents avec l'éthique et la spiritualité du lieu, mais il y a de quoi faire des assortiments larges.
On va revenir effectivement sur cette façon dont on peut concilier justement économie et une certaine forme d'éthique aussi, vous venez de le mentionner Marie-Catherine Paquet, mais si on en revient aux origines même de la chose, il y a un autre paradoxe qui émerge, on a parlé de la boutique à l'instant, cette boutique elle se situe très souvent dans la vaste majorité des cas au sein de l'enceinte du monastère ou de l'abbaye concernée, alors même que les monastères ont précisément vocation à proposer un endroit retiré de la vie sociale séculaire, pourtant il y a question de travail, de production, on vient déjà d'évoquer tous ces mots, d'organisation aussi de cette production. Alors pourquoi certaines communautés sont-elles justement au travail ? Est-ce que c'est uniquement, comme on vient de l'évoquer, une question de subsistance, de survie ?
Alors non, ça n'est pas uniquement une question de survie et de subsistance. On constate que dans toutes les règles monastiques, alors vous avez cité en introduction, bien sûr, l'adage « ora et labora » qui montre bien l'équilibre entre la prière et le travail, issu de la règle de Saint-Benoît qui est la plus connue et qui est suivie encore aujourd'hui par les monastères bénédictins et cisterciens. Il y a d'autres règles, la règle de Saint-Augustin, les règles des ordres mendiants, des carmélites par exemple, etc. Elles sont à la fois, bien sûr, différentes, elles ont chacune leur spiritualité propre, mais le point commun, c'est la place du travail, comme étant non seulement un moyen de subvenir à ses besoins, mais peut-être, et j'allais dire surtout, une activité spirituelle, au même titre que les offices ou la prière individuelle qu'est la Lectio Divina. Donc le travail est une forme de spiritualité beaucoup plus connectée peut-être aux éléments de la terre, aux autres humains qui entourent le moine ou la moniale dans sa communauté, mais peut-être aussi à l'extérieur.
Isabelle Jonvaux, on va revenir sur ses origines plus théologiques aussi, cette idée de consacrer le travail aussi à une certaine proximité avec Dieu aussi, et cette idée d'orienter son travail dans cette perspective-là. Cependant, est-ce qu'il existe, Isabelle Jonvaux, une spécificité française dans ce rapport des moines et des moniales au travail ? Pourquoi est-ce que c'est le travail qui ressort particulièrement au sein de toutes les activités lucratives qui pourraient prendre place au sein d'un monastère ?
Alors effectivement, comme l'a dit Marie-Catherine Paquet, le travail en soi n'est pas uniquement une question de subsistance, ça a sa place dans la spiritualité monastique, mais quand on regarde en fait en Europe et même dans le monde, le cas français est un cas en fait assez spécifique dans la place donnée dans les monastères français aux activités productrices, donc notamment d'artisanat, et pour comprendre cette place, il faut en fait remonter dans l'histoire du monachisme en France. En fait, les monastères français ont perdu au moment de la Révolution leur propriété, leur patrimoine et ont été refondés beaucoup plus tard en fait, non plus par des moines qui avaient une certaine tradition de rapport au travail, à l'étude aussi, à la pastorale dans les paroisses avant la Révolution, mais le monachisme a été refondé par des prêtres qui avaient en fait une vision assez romantique, idéalisée de la vie monastique du Moyen-Âge qui serait totalement centrée sur un travail manuel, un travail des mains que l'on fait à l'intérieur du monastère. Et ça explique pourquoi en France, on a une économie monastique qui est vraiment centrée sur des productions artisanales, notamment par exemple d'agroalimentaire, etc. Alors que d'autres pays auront, par exemple en Autriche, une économie essentiellement basée, par exemple, sur le patrimoine.
Patrimoine qui, de fait, a été retiré, on le comprend aussi à une certaine époque, à celle de la Révolution française, aux communautés monastiques, ce qui explique cette fameuse spécificité. Marie-Catherine Paquet, si on en reste à des considérations bassement matérielles, on va dire, très, très bassement économiques, pour commencer au moins cette émission, à partir du moment où on comprend qu'il y a, bon, certes, une fonction très, très théologique, une fonction très éthique aussi de ce travail, on va y revenir, mais il y a, je reste sur cette question de la subsistance, est-ce qu'on sait à peu près dans quelle proportion cette activité productive, quelle part elle offre, on va dire, de revenus pour les abbayes et les monastères ?
Alors, on le sait sans vraiment le savoir, et je pense qu'Isabelle sera d'accord avec moi, c'est très, très, très variable d'une communauté monastique à l'autre. Là, je parle des communautés françaises qui sont celles que je connais. Je pense qu'on peut dire que en moyenne, mais vous savez ce que c'est qu'une moyenne, les activités lucratives, donc artisanat et commerce des monastères, représentent à peu près la moitié des revenus des communautés. C'est donc très variable et le reste est composé, je le donne en vrac sans ordre de hiérarchie, des dons. Qui sont plutôt en diminution, mais qui sont quand même encore bien existants. Les pensions de retraite, puisque depuis une trentaine d'années, les communautés monastiques cotisent à des caisses de retraite, à une caisse spéciale à Cavimac. Et donc, évidemment, plus la population monastique est âgée, c'est-à-dire plus elle dépasse l'âge de la retraite, eh bien, plus les pensions sont importantes. Et puis, l'activité d'hospitalité, dite hôtellerie monastique, mais je préfère dire hospitalité car hôtellerie est très trompeur. L'hospitalité monastique, c'est une activité monastique au sens vraiment spirituel du terme, puisque Saint Benoît dit que tu accueilleras l'hôte de passage comme tu accueilleras le Christ. Donc cette activité génère des revenus, mais qui sont des revenus ad libitum, c'est-à-dire que les hôtes de passage donnent ce qu'ils peuvent, ce qu'ils veulent. Il n'y a aucun prix affiché, ça n'est pas une activité commerciale au sens de l'hôtellerie mainstream que l'on rencontre.
Et où en tout cas le prix est calculé en fonction aussi d'une forme de rentabilité. Il n'y a pas ce calcul très rationnel là derrière, en tout cas pour cette question de l'hôtellerie, mais on verra que ça se retrouve aussi sur d'autres biens et d'autres services. Isabelle Jonvaux, cette question des retraites, elle est plus importante qu'il n'y paraît, parce qu'il faut bien comprendre aussi à partir du moment où on parle de cette nécessité de la subsistance, de cette fonction de subsistance, il faut aussi nécessairement se demander quels sont les besoins des moines, des moniales qui occupent ces abbayes et ces monastères. Or, les membres d'une même communauté n'ont pas le même âge, c'est une évidence, et de façon assez contre-intuitive, et c'est ce que vous expliquez notamment dans votre thèse, les novices, c'est-à-dire les plus jeunes, coûtent beaucoup à la communauté, sans pour autant rapporter, tandis que les frères les plus âgés, les plus de 60 ans, rapportent bien davantage. C'est effectivement lié à cette question des pensions de retraite qui est venue changer aussi le calcul économique des besoins de ces communautés.
Oui, en effet, c'est encore là une spécificité française, en fait, cette obligation qu'ont eu tous les membres du clergé à partir de 1979 de cotiser donc à cette caisse de retraite appelée maintenant la Camimac, qui a en fait nécessité pour les communautés de produire des revenus supérieurs aux besoins actuels qu'ils avaient puisqu'ils devaient cotiser. Alors, ce n'est pas que négatif, parce qu'en fait, ça leur permet d'avoir par rapport à la maladie, enfin les remboursements, mais aussi bien sûr donc par rapport aux retraites, ce qui est aussi un atout actuellement pour les moines et les moniales, par exemple, qui sortiraient de la vie monastique et qui pourront en fait bénéficier de cette retraite. Il y a d'autres pays, par exemple en Italie, où les monastères ne cotisent pas pour les pensions de retraite, mais comme l'État italien reconnaît la nécessité des monastères dans la société, ils reçoivent des pensions par l'État. Mais en fait, on est arrivé actuellement à une situation où il y a un certain nombre de monastères, de communautés, où la moyenne d'âge, donc bien sûr, augmente, où la part des plus de 60 ans augmente, notamment dans des communautés féminines, où finalement la première source de revenus est parfois au-delà de 50%, ce sont en fait les pensions de retraite. Ce qui est en fait, qui pose beaucoup de questions par rapport à l'avenir, parce que comme me disait une sœur, une moniale en France, quand elle perd une sœur, quand une sœur décède, elle perd un revenu.
Isabelle Jonvaux, on va évidemment énormément parler de la France tout au long de cette émission, mais on le comprend, il y a déjà un système très spécifique lié à la fois à l'histoire, mais aussi finalement à notre système social tel qu'il existe en France. À titre de comparaison, si on prend des voisins européens, je pense notamment à la Belgique ou même à l'Allemagne, là où ce système de retraite n'est pas exactement le même, est-ce que les sources de revenus diffèrent considérablement? Est-ce que l'activité productive est plus développée chez nos voisins européens qu'en France, de façon, on va dire, très liée aussi à ce système de retraite-là?
Alors, je dirais que ce ne sont pas forcément ce n'est pas le système de retraite qui a forcément eu l'impact le plus grand, majeur, sur la forme d'économie, mais c'est tout ce qui est lié aussi, je pense, à l'histoire et donc aux pertes ou non de patrimoine. Mais si on regarde, par exemple, la Belgique, je dirais la grande différence que l'on observe par rapport à la France, c'est que une grande partie des monastères masculins ont en fait des productions très importantes, en fait, vraiment des industries. Donc, par exemple, par rapport à la production de bière et de fromage. Et ce qu'il fait qu'en fait, ces monastères, notamment les monastères trappistes qui produisent de la bière, ont en fait des revenus très importants liés à cette production-là, ou liés parfois, lorsque la production n'est plus directement dans le monastère, liés aux dividendes, en fait, qu'ils reçoivent sur la marque qui leur appartiennent.
Mmh. Marie-Catherine Paquier, il faut mentionner quelque chose de très important aussi pour bien comprendre cet équilibre finalement aussi dans cette pyramide des âges et entre toutes les catégories de population qui constituent une communauté monastique. On l'a dit, les plus jeunes coûtent assez cher dans le sens où ils ne produisent pas encore et ils ont besoin d'être formés aussi. Et finalement, de façon paradoxale par rapport, ou contre-intuitive par rapport à ce que nous on vit dans la société séculaire, on va dire, les plus âgés travaillent et perçoivent des pensions de retraite. Mais tout ça en fait est quelque part mis en commun dans le sens, et là où il faut vraiment le préciser, dans le sens où aucun moine ne perçoit de salaire spécifique ou lié à sa charge de travail. C'est le monastère qui perçoit les sommes, qui gère les finances. Ce ne sont pas les moines individuellement.
Oui, absolument. Déjà, j'ajouterais juste que les jeunes coûtent, parce qu'ils ne travaillent peut-être pas encore beaucoup, parce qu'ils sont en formation, et aussi parce qu'ils doivent cotiser à leur fameuse caisse de retraite. Alors, effectivement, dans la communauté monastique, enfin, quand un novice, enfin, quand un jeune ou moins jeune, d'ailleurs, moine ou monial, entre en communauté monastique, il fait le choix de ne plus rien posséder à titre personnel. Quand il travaille dans la structure lucrative, puisqu'il faut savoir que la communauté monastique a un statut d'association de culte et sectorise ses activités lucratives dans des sociétés type SARL, SASU, etc. Et donc, il y a dont la communauté monastique est le seul et unique associé ou actionnaire, si vous voulez. Donc, quand le moine ou la moniale va travailler à l'atelier ou au magasin, il y a un système de refacturation interne, on peut l'appeler comme ça, mais c'est tout à fait encadré. Et le travail d'un moine ou d'une moniale est rémunéré sous la forme de ce qu'on appelle la valeur d'entretien, qui est une forme de salaire, si vous voulez, qui est versée par la structure lucrative à la communauté et non pas à la sœur ou au frère en question.
En tant qu'individu.
En tant qu'individu. Donc cette somme d'argent qui équivaut à un SMIC tout à fait basique, enfin il y a aucun abus, au contraire, c'est très très modeste, est reversée à la communauté pour la vie de la communauté.
Isabelle Jonvaux, on voit qu'il y a l'entretien, on le disait, cette valeur d'entretien pour les différents individus qui composent ces fameuses communautés. Est-ce qu'il y a d'autres sources de dépenses qui justifient aussi qu'on ait besoin de rentrées d'argent? Je pense notamment au patrimoine à entretenir. Est-ce que ça constitue une grosse source de dépenses?
Alors oui, effectivement, sachant qu'en France, une grande part du patrimoine monastique est aussi monument historique, donc lorsqu'ils font des gros travaux, malgré tout, souvent, ils peuvent avoir des aides, mais en général, les revenus des monastères ne suffisent pas, en fait, à entretenir tous leurs bâtiments. Donc là encore, lorsqu'ils ont des projets assez importants, ils essayent d'avoir des subventions extérieures ou de faire des appels à dons, notamment auprès aussi de particuliers, parce que ça ne suffirait pas. Actuellement, il y a aussi d'autres types de besoins qui rentrent dans les communautés, notamment d'adapter les cellules pour les besoins des moines et moniales âgés, par exemple des sanitaires, etc. Il y a un certain nombre de normes aussi en France lorsqu'on veut faire une infirmerie pour les moines et moniales âgés. Donc tout ça, ça coûte de l'argent. Et d'autres formes aussi de besoins qui sont rentrés peu à peu dans les monastères, qui ne restent pas en fait protégés quelque part de l'évolution du monde moderne. C'est tous les coûts en fait en communication, en technologie qui ont augmenté. J'étudie les monastères depuis 20 ans et j'ai vu que cette part a augmenté en fait dans les dépenses des monastères.
On va voir qu'effectivement cette idée de communiquer, d'afficher une certaine image, d'avoir recours aussi à des consultants qui permettent de travailler sur cette image fait partie aussi de ces dépenses et de cette idée d'entreprise que seraient ces communautés monastiques, ces monastères, ces abbayes. Marie-Catherine Paquier, il faut quand même rentrer un tout petit peu plus dans le détail pour bien comprendre. On parle des monastères, des abbayes, des moines, etc. Mais il faut quand même préciser que toutes et tous ne sont pas nécessairement au travail. Ce n'est pas parce qu'on est moine qu'on est nécessairement en train de produire de la bière, du fromage, des herbes médicinales. Sur les 240 communautés monastiques encore actives en France, 200 fabriquent des produits ou comptent une boutique en leur mur. Pourquoi certaines font ce choix et d'autres non? Qu'est-ce qui détermine ce choix-là?
Alors, je dirais que c'est avant tout une question toute simple de possibilité. Celles qui ne pratiquent pas ce type d'activité ne le peuvent pas pour des raisons démographiques ou aussi de profils. Certaines communautés sont constituées donc soit de communautés de personnes très vieillissantes qui ne peuvent plus ni travailler de leurs mains, ni tenir un magasin, etc. Il y a aussi des communautés qui accueillent les plus vulnérables, les plus fragiles, donc avec des différents types, par exemple, de handicap. Donc ça, tout ça, ça oriente en fait les activités. Et puis, il y a aussi, je pense, le poids, mais ça n'est pas négatif, l'histoire de l'ordre en question. L'approche du travail, l'activité lucrative n'est pas la même chez un bénédictin cistercien ou chez une carmélite, une clarisse. Voilà, par exemple, pour les carmélites, il faut avant tout, dans la constitution des carmélites, il faut travailler en solitude, alors que chez les cisterciens, c'est plutôt un travail en commun. Donc ça engendre des types d'activités très différents.
Et des types de contraintes aussi très différentes. On va voir que de ces contraintes peuvent aussi naître certaines formes d'innovation. On va le voir. Isabelle Jonvaux, j'ai parlé de choix finalement entre adopter une activité productive ou non, mais il faut quand même bien préciser, être bien d'accord sur les termes. Dans aucun cas de figure, la vie monastique a vocation à, on va dire, soutenir cette activité de production. La vie monastique est essentiellement faite de prière, une sorte de recherche de Dieu dans chaque action, dans chaque activité, nous l'avons dit. L'idée n'est jamais de faire de la communauté une unité de production.
Alors non, effectivement, dans ce sens-là, comme on l'a dit, le travail appartient à la spiritualité monastique dans une grande partie des ordres, mais en tout cas ce n'est pas le but des monastères de faire du profit pour faire du profit. Le but de l'économie monastique est de subvenir aux besoins de la communauté, et les communautés essaient aussi, en fait, pour intégrer au mieux l'économie, enfin réduire les tensions entre économie et vie monastique. Les monastères essaient souvent de donner aussi un sens religieux à leur vie monastique, à leur économie. Mais si la situation se présente de monastères qui feraient plus de profit finalement que ce dont ils ont besoin, ils mettent en place tout un certain nombre de mécanismes pour reverser en dons, des dons qui pour eux auraient du sens en fait, et ne pas conserver finalement plus d'argent que ce dont ils auraient besoin.
Donc il y a des stratégies qui permettent de concilier, on va dire, vie économique et vie spirituelle sans pour autant nier l'une ou l'autre. Vous avez parlé de tension, Isabelle Jonvaux. Cette tension-là, on la retrouve dès les origines de la vie monastique. On la retrouve dès les tout premiers siècles, on va dire, aussi de la mise en place de cette vie en communauté. En fait, très rapidement, il y a cet impératif de subsistance et il y a cette idée de s'insérer aussi dans des réseaux de commerce. Est-ce qu'on le retrouve ? En fait, on retrouve des moines commerçants ou des moines producteurs, même artisans, on va dire, dès les tout débuts.
Alors oui, en fait, dès pratiquement les premiers moines du désert, donc c'était déjà dès le 3e siècle, en fait, on avait des ascètes du désert en Syrie et en Égypte. Et en fait, ils étaient déjà confrontés à deux injonctions contradictoires dans la Bible, qui étaient d'une part prier sans cesse, et d'autre part, Saint Paul qui dit « qui ne travaille pas, ne mange pas ». Et donc, il y avait déjà cette tension, et on a des histoires des moines du désert qui racontent qu'ils voulaient vivre comme des anges, mais finalement, qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de manger. Et donc, à partir de ça, les frères du désert, les moines du désert, ont déjà développé, par exemple, des activités de tressage de paniers, etc., qu'ils allaient vendre de temps en temps dans les villes pour pouvoir manger. Donc, c'est quelque chose qui est déjà très ancien. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu, après, au fur et à mesure de l'histoire, que ce sont aussi, en fait, des monastères en Europe qui sont à l'origine du développement des grands réseaux commerciaux d'Europe.
Et de fait, si cette tension entre travail et vie contemplative n'est pas tout à fait nouvelle, on vient de le dire, même loin de là, le travail trouve une forme de légitimité aussi, d'institutionnalisation via des règles clairement édictées, ce qui va aussi peut-être contribuer à renforcer cette tension. Des règles donc édictées notamment par Saint Benoît qui au 6e siècle rédige la règle qui est actuellement la plus utilisée dans les communautés monastiques à travers le monde.
L'oisiveté est l'ennemi des âmes. C'est ce qui fait que les frères doivent donner de certains temps au travail des mains et d'autres à la lecture des choses saintes. Ainsi, nous croyons qu'il est à propos de régler ces deux temps à la manière suivante. Depuis la fête de Pâques jusqu'au calende d'octobre, les frères sortant le matin travailleront aux choses qui se trouveront nécessaires depuis la première heure du jour jusque vers la quatrième. Et depuis la quatrième, ils s'occuperont à la lecture à peu près jusqu'à la sixième, après laquelle, ayant dîné, ils iront se reposer sur leur couche dans un profond silence. Que s'il y a quelqu'un qui ait envie de lire en particulier, il le pourra faire, pourvu que ce soit sans incommoder personne. On dira non plutôt qu'à l'ordinaire, dans le milieu de la huitième heure, et on travaillera ensuite jusqu'au soir. Que si les frères se trouvent obligés par la disposition du lieu ou par la pauvreté du monastère de s'employer à faire la moisson, cela ne les doit point affliger. Parce que c'est alors qu'ils seront véritablement moines, quand ils vivront du travail de leurs mains, selon l'exemple des apôtres et de nos pères. Il faut néanmoins que toute chose se fasse avec modération pour le soulagement des faibles. Depuis les calendes d'octobre jusqu'au commencement du carême, les frères liront jusqu'à la seconde heure toute pleine. Alors on dira tierce, et puis chacun s'appliquera, jusqu'à la neuvième heure, au travail qui lui aura été marqué. Au moment qu'ils entendront le premier coup de nonne, ils quitteront tous leur travail pour se tenir prêts au second coup. Et après qu'ils se seront levés de table, ils s'occuperont à leur lecture ou à apprendre les psaumes.
Isabelle Jonvaux, je le disais à l'instant, la règle de Saint-Benoît permet d'institutionnaliser ce qu'est le travail d'un point de vue très théorique, très théologique. Est-elle pour autant la seule règle à se saisir de la façon dont on pourrait concilier justement vie spirituelle et vie économique et tenter de trouver une solution face à ce paradoxe qu'on a évoqué depuis le début de l'émission? Est-ce la seule règle à le faire?
Non, en effet, alors c'est celle, je pense, qui creuse le plus cette question et qui essaie le plus, je pense, de trouver cette unité, cette unification entre la prière et le travail. La règle de Saint Augustin, que suivent notamment des chanoines, alors qui canoniquement ne sont pas des moines, mais a tout un chapitre aussi sur le travail des moines. Ce chapitre a été ajouté, en fait, à la suite de conflits qu'il y avait pu avoir dans des monastères qui suivaient la règle de Saint Augustin. Et comme le disait Marie-Catherine Paquier, dans les Carmels, donc il y a en fait des exigences particulières de vivre le travail de manière donc en solitude dans des ateliers séparés, ce qui aboutit en fait aussi à des réflexions assez complexes sur comment organiser des productions qui puissent s'inscrire dans ce type de configuration.
Marie-Catherine Paquier, selon la règle de Saint-Benoît et selon Saint-Benoît lui-même, on peut le dire, à quoi correspond un monastère, une abbaye? Quel est son rôle? C'est un rôle de transformation à la fois de l'homme en lui-même, de sa spiritualité, mais aussi un lieu de transformation de matière première, on peut le dire, c'est ainsi qu'il le considère?
C'est exactement ça, la transformation de l'âme avant tout, et cette transformation de l'âme,
voilà.
Et par le travail, l'âme se transforme. Je pense qu'il faut le voir comme ça, effectivement, avec cette hiérarchie, c'est d'abord et surtout et avant tout la transformation de l'âme par la prière et toutes les activités spirituelles.
Et on le voit, c'est aussi une définition, un découpage du temps aussi du quotidien qui est très importante. Est-ce que pour autant il y a une marge de manœuvre qui est laissée? Est-ce qu'il y a un arbitrage qui est laissé à la discrétion des individus, en l'occurrence des moines et des moniales, ou est-ce que cette règle ne laisse pas tellement de place finalement à un éventuel choix de la part des individus?
Alors, la règle de Saint-Benoît, comme les autres règles monastiques, donne vraiment des orientations. Et c'est toute la, je trouve, un peu la magie de ce texte de Saint-Benoît, qu'il donne la possibilité quand même de beaucoup d'adaptation, d'interprétation, mais surtout d'adaptation. Et comme le disaient les moines de Saint-Vendry en tout début d'émission dans votre reportage, le frère qui est à la brasserie, au moment de certains offices, préfère prier en restant dans la brasserie en sweatshirt, mais avec son psautier, plutôt que de prendre le temps de se rhabiller et de courir à la chapelle. Donc il y a des adaptations comme cela vraiment qui sont possibles, mais ce sont à chaque fois des adaptations qui sont décidées communautairement avec discernement.
Isabelle Jonvaux, vous souhaitez réagir, et puis j'aurais une question en lien finalement avec cette fameuse règle de Saint-Benoît. Je le disais, c'est une institutionnalisation. Est-ce que ça veut dire que ça exacerber, on va dire, la tension entre vie économique et vie spirituelle? Est-ce qu'au contraire, ça a permis, c'est arrivé finalement comme une solution, comme une façon de concilier les deux?
Alors oui, effectivement, ça a été vu comme une façon de concilier les deux et surtout de légitimer finalement le travail. Mmh. Il faut aussi se remettre dans le contexte de l'époque. Donc la règle de Saint-Benoît date du VIe siècle et en fait, à l'Antiquité, au tout début du Moyen-Âge, le travail était en fait l'œuvre des esclaves les personnes qui avaient vraiment un statut dans la société ne travaillaient pas. Certainement ne travaillaient pas de leurs mains. Et donc finalement, que les moines doivent travailler était aussi une forme de pauvreté et de légitimer le travail par la règle a donné en fait pour la société entière aussi un autre statut au travail. Néanmoins, je pense qu'il est important de souligner que ça reste en fait une tension constante. Une sœur me disait en France que l'économie monastique est toujours sur un fil du rasoir. Donc c'est toujours une tension qui est présente et on voit en fait que les exigences actuelles de l'économie ont un impact sur la vie de prière parce que finalement de plus en plus de monastères en France ont laissé de côté, en fait ont supprimé les petits offices, donc les offices qui arrivent par exemple tierces, qui arrivent vers 9-10 heures du matin parce que ça demandait de trop interrompre le travail. Et de devoir interrompre en fait constamment, régulièrement le travail dans la journée nécessitait aussi de trouver des formes de travail qui puissent s'être interrompues. Par exemple, un moine à Saint-Vendry, donc il y a déjà plus de 15 ans, me disait lorsqu'il faisait des activités de cire, il était impossible en fait d'interrompre cette activité de production de cire parce que si on l'interrompait pour la prière, la cire en fait se figeait dans les tuyaux et après ça demandait des heures de nettoyage de la machine pour pouvoir récupérer donc la production.
Et cet exemple de la cire est moins anecdotique qu'il n'y paraît, Marie-Catherine Paquet, puisque aujourd'hui la cire n'est plus produite typiquement sur le site de Saint-Vendry. Il n'y a que la bière qui est brassée sur place et pourtant ils commercialisent, ils vendent toujours dans leur boutique des cires estampillées Saint-Vendry qui bénéficient de cette réputation là aussi. Finalement, qu'ont fait les moines de Saint-Vendry? Ils ont externalisé face à cette double contrainte, à la fois cette maximisation du temps religieux et puis cette maximisation aussi de la contrainte de subsistance. Ils ont fini par déléguer.
Oui, alors ça c'est vraiment un sujet central et je pense par rapport à votre émission Homo Economicus, on peut dire que le moine est passé d'un statut de homo faber, l'homme qui fait,
fabrique, oui.
Qui fabrique, à celui d'homo vigilax, celui qui est vigilant, qui veille sûr. C'est le père Luc de la Pierre qui vire qui m'avait expliqué ça et je trouve que c'est vraiment... évidemment très juste, il est beaucoup mieux placé que moi pour le dire, mais ça illustre très bien cette évolution dans les 30, 40, 50 dernières années qui a vu un espèce d'effet de ciseau avec des mutations en interne, des problématiques démographiques, une baisse des vocations essentiellement, donc un vieillissement de la population monastique, même s'il y a toujours des exceptions, donc des communautés jeunes et qui recrutent des jeunes, hein, mais c'est quand même exceptionnel. L'effet de ciseau en externe, c'est l'augmentation des exigences en termes de normes, la digitalisation qui provoque des besoins nouveaux, des compétences nouvelles que les monastères n'ont pas. Bref, pour faire face à tout ça, beaucoup de communautés ont été obligées petit à petit de moins faire elles-mêmes parce qu'elles ne pouvaient plus ou ne savaient plus et de faire avec du personnel extérieur, soit des salariés laïcs, soit des prestataires, soit des sous-traitants même. Et dans ce cas, et l'exemple de Saint-Vendry toujours, mais il y en a plein d'autres, quand une communauté, je sais pas, les savons de Chantelle par exemple sont fabriqués par un savonnier qui est extérieur à la communauté, les sœurs ont développé de nouvelles compétences qui sont celles de suivre une fabrication pour garder le contrôle sur ces produits-là. Et c'est tout le travail de la marque monastique avec un C dont nous reparlerons peut-être plus tard, cette marque a beaucoup fait évoluer ses critères d'attribution.
Donc on le voit finalement, il y a deux arbitrages, à la fois celui dont nous parlait Isabelle Jonvaux, celui de réguler le temps finalement de la prière, en tout cas dédié aux offices, ou celui de changer de fonction, ou en tout cas de façon d'approcher le travail et d'être peut-être plus gestionnaire, plus manager, comme on dirait aujourd'hui. Il y a différentes façons de s'adapter. Ce qui est intéressant, Isabelle Jonvaux, c'est que avant même d'en arriver là, avant de voir comment, dès lors que la balance se déréglait, c'est-à-dire si on fait des affaires trop florissantes, ou au contraire que les contraintes économiques deviennent trop impératives, on va dire. Avant cela même, vous citez beaucoup dans votre thèse et puis dans certains autres de vos articles, vous citez beaucoup Max Weber pour qui les monastères sont a priori des réalités anti-économiques. Là, on vient de voir à travers les exemples qu'on est très loin de cela puisque les arbitrages sont faits en raison de contraintes notamment économiques et que donc ces réalités a priori anti-économiques deviennent par nécessité des communautés de régulation de l'économie. Alors, qu'entend Max Weber par là ?
Alors, une communauté de régulation de l'économie, c'est tout simplement, pour Max Weber, une communauté qui est soumise à la réalité économique parce qu'elle a besoin de s'organiser pour survivre. Parce que donc, ce sont des personnes qui vivent ensemble au même endroit. Et encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont des personnes qui ont des besoins et qui donc doivent s'organiser ensemble pour subvenir ensemble à leurs besoins sans que leur but premier soit un but de production.
Et pourtant, Isabelle Jonvaux, vous dites aussi dans certains de vos articles que ces communautés monastiques, et là il s'agit de remonter l'histoire très longue, mais que ces communautés-là ont contribué aussi à former, à faire produire une sorte de cartographie du capitalisme, ne serait-ce que dans ses débuts, à travers l'instauration de réseaux marchands, l'instauration d'une certaine façon de travailler aussi, et ça vaut dès le Moyen-Âge. Comment on explique qu'ils se soient lancés, que ces communautés-là aient joué ce rôle-là vis-à-vis du capitalisme ?
Alors en effet, c'est aussi une thèse de Max Weber que les monastères catholiques, de même que les calvinistes en Suisse, seraient à l'origine du capitalisme moderne en Europe. À cela, il voit une raison essentielle, en fait. En fait, l'axe explicatif, finalement, du passage de ces monastères qui seraient anti-économiques à des monastères qui seraient, comme il le dit, devenus des temples de l'économie rationnelle, en fait, c'est l'ascèse qui est cet axe explicatif. L'ascèse, donc de son origine grecque exercice, c'est cet entraînement physique, moral, spirituel que les moines et voviales vivent tous les jours pour finalement se rapprocher de Dieu, pour devenir des êtres encore plus spirituels et qui se préparent au grand combat avec le mal, donc comme on disait pour les moines du désert. Et cette ascèse, en fait, nécessite de tout vivre dans la vie monastique, comme on le dit, donc pour la plus grande gloire de Dieu, in maiorem Dei gloriam, et notamment en fait chaque instant de la vie monastique donc doit être offert pour Dieu, et surtout, on l'a dit, ce qui est le plus important dans la vie monastique, c'est la prière. Donc il faut si possible que le temps de travail qui est nécessaire soit le plus efficace possible pour protéger en fait le temps de prière qui est le temps le plus important. Donc finalement, en fait, de manière paradoxale, comme le montre Max Weber, c'est par l'ascèse spirituelle qui refuse l'économie que les monastères en sont devenus à être effectivement des lieux non seulement d'économie rationnelle, mais on a pu le voir en Europe aussi, des lieux d'innovation. Il y a énormément d'innovations techniques, agricoles, médicales qui en fait ont trouvé leur origine dans les monastères.
Donc c'est à la fois, on va dire, des réseaux marchands, mais aussi, comme vous le disiez, une forme de support technique, une idée aussi d'améliorer les conditions de travail. Vous l'avez dit, la rationalité, la dont parlait Max Weber, est aussi finalement un facteur de performance, une façon d'organiser son temps de façon la plus efficace, la plus efficiente possible. Une rationalité dont parlaient justement les nonnes de l'abbaye d'Igny dans un documentaire daté de février 2023.
Dès qu'on a une entreprise, on veut toujours progresser, sinon c'est pas normal. Soit progresser en mieux, en meilleure qualité, en plus moderne, en moins de travail, tout en gagnant autant. Parce que nous, il faut... Ouais. On n'a pas beaucoup d'heures de travail, donc il faut que ça rapporte plus que les gens normaux. Enfin, les gens. Hein. Si on a combien d'heures de travail par jour ? 5 ou 6 heures. Donc il faut qu'on se débrouille pour que ce soit rentable.
Mais si ça ne l'est pas, on se débrouillera quand même. Mais on vivra autrement, c'est tout. On
aura plus
chichement. Bah oui, bah on aura des locaux plus délabrés, on mettra 3 pulls au lieu d'un. Mais des choses comme ça, quoi. Mais c'est...
Vous êtes bien à l'écoute d'Entendez-vous l'écho, et donc bien sur France Culture. Nous étudions aujourd'hui des homo economicus un peu particuliers que sont les moines et les moniales, les membres des communautés monastiques. Alors comment ces derniers organisent-ils le travail rendu compatible avec la prière et la contemplation via notamment la règle de Saint-Benoît ? Les monastères sont-ils des entreprises comme les autres ? C'est la question que nous posons donc dans cette émission réalisée par Cassandre Puel et Françoise Le Floch, programmée et préparée par Joséphine Reinhardt et mise en onde aujourd'hui par Ludovic Auger et Julien Carrera, qui assure le duplex depuis la Suisse où vous vous trouvez, Isabelle Jonvaux. Alors là, on bascule dans une nouvelle partie de l'émission. Finalement, on a vu toutes les contraintes qui s'imposaient aux monastères et aux abbayes, et toutes ces contraintes vont devenir effectivement des facteurs d'efficacité économique. On peut dire, Isabelle Jonvaux, que cette rationalité, cette ascèse dont vous parliez en fait partie. Ça, c'est un exemple presque de management et d'organisation scientifique du travail.
Oui, alors effectivement...
Je mets des guillemets scientifiques, mais...
Bon, en tout cas, rationnel, je dirais rationnel. Et en fait, plus qu'on ne le croit, dans le sens où depuis, je dirais, 20 à 30 ans, il y a un grand intérêt aussi du management pour la règle de Saint-Benoît. Des moines sont invités, enfin notamment effectivement aussi un moine de Saint-Vendry, sont invités pour parler avec des chefs d'entreprise. Il y avait des monastères en France, par exemple les Reims, Ganagobi, qui proposaient des sessions pour des chefs d'entreprise, parce que effectivement les monastères développent une approche finalement spécifique du travail qui non seulement veut être la plus efficace, la plus efficiente possible, mais aussi qui cherche en fait à intégrer vraiment des dimensions éthiques, aussi de place de la personne, c'est de développer en fait une économie qui met la personne au centre de ses priorités et non pas l'économie elle-même, non pas le profit en premier lieu.
Et c'est vrai, Marie-Catherine Paquet, qu'on pourrait se dire que là encore c'est une contrainte considérable que de ne pas choisir finalement ses salariés, là je mets plein de guillemets, mais finalement on n'a pas le choix au sein des monastères de fonctionner comme une entreprise normale. L'activité monastique est contrainte de faire avec la main d'œuvre présente, elle ne peut pas non plus licencier un moine qui serait peu compétent ou peu efficace. C'est une façon de déterminer les tâches de chacun, c'est ainsi que se distribuent finalement les relations de travail, mais aussi les tâches qui sont attribuées.
Absolument. En fait, au sein d'un monastère, on parle... bien sûr, on peut faire des analogies ou des parallèles avec une entreprise classique. Mais on parle de charges. Des charges monastiques, on peut les placer sur un continuum de la plus spirituelle à la plus temporelle. Alors, dans les plus spirituelles, c'est avoir la charge de la formation des novices, la charge de l'organisation de la liturgie. Donc ça, on imagine bien que c'est avant tout spirituel. Et puis, plus on va vers l'autre extrémum, qui est le temporel, eh bien, il y a la charge d'être responsable du magasin, responsable de l'atelier, responsable des emplois, c'est-à-dire gérer tous les salariés ou prestataires qui viennent travailler à l'abbaye. Et puis, une charge qui est très transversale et qui est autant spirituelle que temporelle, c'est la charge de l'économe, le célérier chez les bénédictins, qui est celui ou celle qui vraiment tient les cordons de la bourse, ça c'est au sens très trivial, mais qui a une vision très transverse de toutes les dépenses et recettes du monastère, que ce soit pour les dépenses très liées à la spiritualité ou liées au temporel. Et ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à une entreprise classique, il y a une désappropriation totale des charges, c'est-à-dire que c'est le père abbé ou la mère abbesse qui, avec son conseil, va attribuer les charges monastiques. Et en général, alors il y a toujours des exceptions, bien sûr, mais en général, un moine ou une moniale se voit attribuer une charge pour un certain nombre d'années. Et au bout de 3, 4, 5, 6 ans, ça tourne. L'objectif, et c'est bien inscrit dans les règles monastiques, est qu'il n'y ait pas d'appropriation, donc de précaré, de
surspécialisation, qui mènerait peut-être à un isolement aussi.
Et ça, je trouve que c'est très inspirant pour les entreprises d'aujourd'hui ou pour nous, enfin nos activités à nous.
Cette idée de roulement.
De roulement.
Et de se mettre à la place finalement de son collègue, ou en l'occurrence de son frère. Isabelle Jonvaux, vous souhaitiez réagir sur cette question de la distribution des charges.
Oui, en effet, parce qu'on a dit aussi, on a souligné que les moines donc ne reçoivent pas de salaire et que les charges, finalement, chaque charge est autant utile à la communauté que ce soit une charge non lucrative ou une charge lucrative dans l'activité de production. Mais ce qu'on observe en fait d'un point de vue concret, c'est que cet idéal ne fonctionne pas toujours si bien. En fait, ce n'est pas facile dans la vie de se détacher finalement vraiment du type de travail que l'on exerce. Et j'ai eu plusieurs anecdotes dans des monastères, par exemple à la pierre qui vire, d'un moine âgé qui toute sa vie avait eu des charges au service de la communauté, donc non lucrative, et qui à 80 ans avait une petite activité lucrative et qui avait dit pour la première fois je gagne ma vie. Alors qu'en réalité chaque charge, enfin s'il n'avait pas fait ses charges au service de la communauté, il aurait fallu payer quelqu'un pour le faire. Donc ce n'est pas qu'il n'y avait aucune productivité, mais en fait il est très difficile dans notre société actuelle de se détacher totalement de ce lien en fait entre travail argent, travail salaire, qui nous donne un certain statut dans la communauté. Et certains même disent, quand ils ont une activité peut-être plus importante ou qu'ils produisent plus d'argent, qui disent à l'abbé, ah, avec tout ce que je gagne, peut-être que tu pourrais m'acheter ceci ou cela.
Oui, ce qui effectivement n'est pas forcément très compatible avec tout ce que nous venons d'évoquer. Alors se pose la question finalement de comment ces moines, ces moniales parviennent encore une fois à détourner, on va dire, ce qui ressemble fortement à des contraintes en justement des avantages. Et on va notamment évoquer la question de l'éloignement géographique, mais aussi cette idée de déléguer à autrui, car règne finalement ce piège, cette tension vis-à-vis de ce que Max Weber identifiait de fait comme un piège, celui de la trop grande performance économique. On en parle juste après un tour dans les jardins, une monastery garden interprétée par le Ukulele Orchestra de Grande-Bretagne. Sont-ils des homo economicus comme les autres? C'est notre question aujourd'hui dans Entendez-vous l'écho, et nous sommes toujours en compagnie de Marie-Catherine Paquier et d'Isabelle Jonvaux. Isabelle Jonvaux, on a bien compris que le travail était devenu pour les moines et moniales autre chose qu'un mal nécessaire. C'est une façon certes de subvenir aux besoins de la communauté, mais c'est aussi une façon de se rapprocher de Dieu, cette dimension étant un caractère, on va dire, sine qua non de l'activité productive de chaque membre. On a vu comment le travail était distribué en fonction des caractéristiques de chacun. Isabelle Jonvaux, pour autant, est-ce que quelqu'un, on va dire, a le mot final dans cette organisation-là? On a parlé d'une organisation de roulement où finalement personne ne pouvait s'approprier une forme de travail, pas plus qu'un salaire. Est-ce que toutefois il y a une forme d'autorité hiérarchique et surtout quelqu'un qui veille à ce que la règle adoptée, que ce soit celle de Saint-Benoît ou une autre, soit bel et bien respectée?
Oui, alors effectivement, les monastères ont aussi un organigramme où on va croiser organigramme religieux, monastique et organigramme économique. Donc chaque activité économique a son responsable. L'économe est chargé de gérer donc toutes ces activités économiques. Souvent, il y a aussi un comptable qui va avoir la partie donc plus comptabilité. Mais finalement, la personne qui en dernière instance est responsable de l'économie, qui aura le dernier mot, ce sera l'abbé, le père abbé ou la mère abbesse, qui sont aussi accompagnés d'un conseil, il y a aussi un conseil économique, mais celui qui a vraiment la responsabilité finale des décisions, surtout lorsqu'il s'agit de décisions importantes, ce sera le père abbé. Pour certaines dépenses qui seront aussi, en fait, au-dessus d'une certaine limite, le chapitre, donc tous les moines et moniales professent, devront voter pour donner ou non leur accord.
Isabelle Jonvaux, j'en profite pour rebondir très rapidement, mais tout de même, parce que c'est un point important, vous venez de faire cette distinction entre père abbé, mère abbesse. Est-ce que les deux types de communautés, on va dire les masculines et puis les féminines, est-ce que les moines et les moniales sont à mettre sur le même rang, on va dire, ont un même accès à cette vie économique et sont sur un pied d'égalité, ou est-ce qu'il faut bien marquer une distinction entre les deux ?
Alors non, effectivement, moines et moniales ne sont pas sur un pied d'égalité concernant l'économie, en tout cas dans le cas français. Les moniales sont entrées plus tard sur ce marché de l'économie monastique par rapport aux moines. En fait, jusque dans les années donc de la Seconde Guerre mondiale, les moniales vivaient essentiellement des dots qu'apportaient les familles lorsqu'une moniale entrait. Et en fait, ce système a périclité. En 1950, le pape Pie XII s'est rendu compte de la très grande pauvreté dans laquelle vivaient les monastères de moniales. Il a écrit une lettre apostolique pour demander aux moniales d'avoir des travaux productifs pour subvenir à leurs besoins. Et c'est à partir de ce moment en France que les moniales ont commencé à avoir des activités productives, par exemple de couture, de petits gâteaux, etc. Ce moment où s'est développé le réseau qu'on appelle en France aide au travail du cloître pour soutenir les monastères féminins, pour acheter par exemple une machine à coudre ou quelque chose pour avoir une production, et aussi développer des magasins, parce que les monastères de moniales étant plus cloîtrés, elles avaient plus de difficultés à vendre en fait leur production vers l'extérieur. Elles auront moins de magasins, par exemple les Carmels, elles sont aussi elles ont moins accès à des formations à l'extérieur, encore une fois parce qu'elles sont plus cloîtrées. Mais finalement, le paradoxe que l'on observe, c'est que les moniales qui sont rentrées plus tard sur le marché de l'économie monastique vont avoir des productions en fait qui seront plus détachées des activités traditionnelles, par exemple de vin, de miel, etc. Elles auront des productions en fait plus transformées et qui donc vont avoir une valeur ajoutée en fait supérieure à celle des produits monastiques masculins.
Alors là, on en arrive à un point extrêmement important, Marie-Catherine Paquier. Finalement, pourquoi les gens achètent des produits monastiques? Pourquoi ceux-ci rencontrent-ils une forme de demande et de fait un certain succès?
Ils sont vraiment, même s'ils sont issus d'organisations séculaires, ils sont complètement dans l'air du temps. Pour un consommateur du 21e siècle, la quête d'authenticité, la quête de naturalité, de spiritualité est là. Voilà. Et le produit monastique, en fait, est un peu la quintessence de toutes ces attentes. Avec mes recherches l'ont montré, un très très fort imaginaire. En début d'émission, Isabelle, vous parliez de l'imaginaire des prêtres, le romantisme des prêtres au 19e qui avait...
avait méjugé peut-être aussi de l'organisation économique.
Monastique. Pour le consommateur, c'est pareil. Il y a un imaginaire qui est très fort autour du moine médiéval autarcique qui fabrique son produit avec amour, sans être dérangé du tout par un téléphone portable. Cet imaginaire n'est absolument pas le reflet de la réalité. Et le travail actuellement des communautés monastiques et de la marque monastique est de faire comprendre aux consommateurs que le produit, même s'il n'est pas complètement fabriqué par les mains d'un moine ou d'une moniale, l'est quand même sous la responsabilité de la communauté, et que acheter un tel produit, c'est soutenir la vie monastique. Donc dans l'achat, c'est ça qui est très intéressant, il y a une part de don. Quand un acheteur consent à acheter un petit peu plus cher un produit monastique parce qu'il est fabriqué en petite série avec des produits, des matières premières de qualité, il soutient, et c'est un achat engagé en général.
Donc il y a cette dimension symbolique très importante. Il y a aussi cette notion qu'on évoquait à l'instant de rendre plus accessible aussi ces produits qui, on l'a dit, sont souvent vendus dans des boutiques eux-mêmes situées dans l'enceinte des monastères, qui sont eux-mêmes assez excentrés généralement des centres-villes. Donc on voit qu'il y a des défis relativement nouveaux qui apparaissent.
Oui.
Et tout l'enjeu, justement, est de miser sur une certaine forme de marketing. Je vous propose d'écouter les témoignages du frère Marie-Pac de l'abbaye de Lérins, près de Cannes, et puis le frère Nathanaël, producteur de fromage à l'abbaye de Tamier, en Savoie, qui a fait appel, justement, à une consultante en marketing pour mieux vendre ses produits.
C'est pas notre but de gagner de l'argent. On nous a proposé d'acheter l'île, on nous propose de louer l'île pour des films, même d'être figurant pour des publicités. On a toujours refusé parce que il faut gagner de l'argent, mais ce n'est pas notre motivation principale.
Il faut être clair, lisible du premier coup d'œil.
Et pas trop de choses.
Pas trop de choses. Le plus important, il est là. Quelque chose qui aujourd'hui parle aux consommateurs, c'est au lait cru et entier. Okay. C'est pas trafiqué. Un moine, ça trafique pas. C'est vrai. Ce qui est important, c'est le clocher, évidemment, hein, avec la croix qui va juste sur le mot abbaye.
Il y a juste un petit truc que je regarde après, c'est qu'on aurait dû faire un tout petit peu plus de montagne.
Ah, c'est vrai que derrière, il y a de la
derrière,
montagne.
Derrière.
Là, on a l'impression que c'est presque en plaine.
On n'est pas. On n'est ni en Bretagne, ni, ni je ne sais pas où, mais on est en montagne. Donc on voit un petit mont et ça aurait, on aurait gagné à avoir un petit,
oui,
un
mais
petit fond
si
de montagne.
Si tu avais eu trop de montagnes là, ça aurait été beaucoup moins lisible. Il faut faire ressortir la marque qui s'appelle Abbaye de Tamier.
Ça répond tout à fait à ce qu'on avait voulu que ça fasse comme effet. Il n'y a pas une force commerciale importante. Le packaging pour nous, c'est pour ça que je trouve que c'est très important, est notre premier vecteur commercial.
Le packaging est notre premier vecteur commercial. On a tout de même l'impression, Marie-Catherine Paquier, qu'une certaine forme de quête de rentabilité, je ne sais pas si on peut le dire ainsi, mais en tout cas d'être clairement visible et donc de susciter la demande et de fait l'adhésion aussi d'une partie des consommateurs, prend une certaine importance aussi pour ces communautés monastiques. Est-ce compatible avec tout ce qu'on vient d'évoquer, à savoir qu'on cherche juste à vendre en fonction des besoins et des capacités de production?
Alors je nuancerai peut-être vos propos. L'exemple là de l'abbaye de Tamier est intéressant, mais est un petit peu unique. En tout cas, c'est l'exemple des moines fromagers qui sont obligés de passer par des circuits de distribution très, très, très précis qui maintiennent la chaîne du froid. Donc, ils passent par des grossistes en produits de fromage. Et du coup, leurs produits se retrouvent, pour certains, dans quelques supermarchés ou hypermarchés. Donc là, les produits sont obligés de se vendre tout seuls. Voilà pourquoi le frère Nathanaël, que je connais très bien et avec qui je travaille aussi, évoque cette idée du packaging qui vend le produit. L'immense majorité des produits, mais vraiment l'immense majorité, n'est jamais vendue en grande surface, mais dans les magasins monastiques, des monastères, ou bien dans le réseau qui a été créé par l'association ATC Aide au Travail des Cloîtres. Donc il s'agit de l'enseigne Artisanat Monastique. Il y a 7 magasins dans 7 grandes villes en France, plus un site marchand. Et donc là, il y a des boutiques avec du conseil, etc. Et il faut savoir que quand on achète dans ces boutiques Artisanat Monastique, en héritage de cette création de aide au travail des cloîtres dans les années 50, tout le surplus permet de soutenir financièrement des équipements dans des ateliers de monastères. Encore aujourd'hui, je suis administratrice de ATC, donc on a distribué récemment une aide pour que la communauté de Chambaran puisse acquérir une machine à mettre des chips de pommes sous vide, par exemple, pour lancer
une
nouvelle production.
C'est réinjecté.
Donc c'est réinjecté, il y a une forme d'économie très collaborative et solidaire dans ces magasins monastiques.
Est-ce que cette configuration en réseau que vous venez d'évoquer permet justement de sortir de l'isolement certains monastères, certaines abbayes, et y compris pour certaines moniales?
Absolument. C'est d'ailleurs l'essence même de ces magasins. À la base, comme le disait Isabelle tout à l'heure, l'aide au travail des cloîtres a été vraiment créée dans les années 50-51 pour favoriser, aider les communautés féminines qui étaient encore très en clôture à vendre leurs produits. Et aujourd'hui, c'est toujours l'essence même de ce réseau de distribution. L'idée première est de permettre aux petites communautés qui n'ont pas les moyens d'avoir leur propre magasin, par exemple, ou d'organiser leurs propres revendeurs, de vendre leurs produits. Mais pour ça, les grandes communautés sont aussi très solidaires, c'est-à-dire que en proposant leurs produits à la vente chez Artisanat Monastique, les grandes communautés qui ont des produits très connus, évidemment la Chartreuse, l'Alexion d'Aigbel, le fromage de Tamier et autres, font venir les clients, en fait jouent le rôle de produits d'attrait. Et grâce à ça, les produits des petites communautés sont connus et donc vendus.
Et c'est intéressant que vous citiez l'exemple de la Grande Chartreuse, parce qu'ils ont été confrontés aussi à cette idée, à ce fameux piège de Max Weber, celui de la surperformance économique. Que s'est-il passé pour eux? Comment ils ont réagi face à cette très forte, ce très fort succès finalement de leur liqueur?
Oui, alors c'est très intéressant, bien que la Chartreuse soit un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que c'est une production qui est internationale et très 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 importante, et loin, les autres communautés monastiques françaises sont loin de ces volumes-là, mais récemment, effectivement, le père Abbé a décidé, en conseil certainement avec sa communauté, de stopper la croissance. Ils n'ont pas stoppé la production des liqueurs, hein, attention, ne vous inquiétez pas.
De réduire la production.
De stopper la croissance, de devenir neutre en termes de croissance. Et alors pour plein de raisons qu'on n'a peut-être pas le temps de développer écologique et aussi d'équilibre de la vie spirituelle, et ils se recentrent sur une production d'herboristerie beaucoup plus adaptée en fait à leur vie spirituelle monastique.
Isabelle Jeanvaux, c'est ce qui arrive quand une abbaye, un monastère connaissent un trop grand succès. Il s'agit de réduire, on va dire, les rythmes de production. Et si oui ou sinon, justement, comment le profit est-il investi? Est-ce que les moines ont aussi une activité d'investisseur qui, là encore, doit répondre à des impératifs éthiques?
Oui, effectivement. Alors, lorsque le profit ou lorsqu'une activité devient trop importante, en fait, elle peut représenter un danger pour la vie monastique parce qu'elle prend trop de place dans la communauté ou trop de place dans la vie personnelle des moines et moniales. Donc, il y a deux solutions. Soit, effectivement, de décider de ne pas augmenter la production, voire de la réduire de manière, donc, de le faire sciemment. Soit, carrément, comme on l'a vu aussi à Saint-Vendry, de revendre l'activité et d'en recommencer une nouvelle. Alors, concernant effectivement l'utilisation du profit. Donc on voit que les monastères... Alors il faut vraiment relativiser dans le sens où tous les monastères ne sont pas dans cette situation. Il y a des monastères qui au contraire ont des difficultés économiques. Mais donc ils vont soit favoriser donc, certains types de dons, notamment essayer de voir des associations ou certains cas de personnes qui ne sont pas aidées par d'autres réseaux de soutien, par exemple de l'État. Ou aussi des monastères, donc en général, ont des placements actuellement. Les monastères sont obligés d'avoir des placements, mais lorsqu'ils ont des placements, ils essaient d'avoir des placements considérés comme éthiques, c'est-à-dire qu'ils soient en accord avec leurs propres valeurs.
Et on voit que des solutions existent pour concilier vie économique et vie spirituelle au sein des abbayes et des monastères. Un grand merci à toutes les deux, Marie-Catherine Paquet et Isabelle Jeanvaux, d'avoir participé à cette émission.